Dans la deuxième partie des chapitres 4 à 10, chapitre 7, le débat se fait plus pressant. Au chapitre 7, les images du prophète vengeur deviennent de plus en plus tumultueuses dans leur intermittence, comme un jet pressé de quitter le tuyau trop étroit d'une fontaine. Il s'agit de nouveau d'Éphraïm. C'est que le jugement est à la porte. Pas un instant à perdre si l'on veut y échapper. Quand j'ai voulu guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm s'est découverte, et les méchancetés de Samarie, car ils ont pratiqué la fausseté, et le voleur entre, et la troupe des brigands assaille dehors. Et ils ne se sont pas dit dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs méfaits les environnent, ils sont devant ma face. Versets 1 et 2. Éphraïm avait été une bande de voleurs et de brigands. Chapitre 6, verset 9. Maintenant, le voleur entrait dans sa maison et les brigands l'assaillaient du dehors. La Syrie, l'Égypte, la Syrie allait tomber, tombait déjà sur la nation coupable. Elle était avec ses méfaits devant la face de Dieu. Et penser qu'elle aurait pu s'y trouver avec sa repentance, chapitre 6, verset 2, pour obtenir la délivrance et le salut. Comme nous l'avons dit, les images se pressent, se confondent. C'est l'indignation contre le mal, mais aussi c'est un dernier appel à Éphraïm. Tous, ils commettent l'adultère, comme un four allumé par le boulanger qui cesse de l'attiser depuis qu'il s'est mis à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ait levé. Verset 4. Il parle ici de la religion des dix tribus, du mélange de l'idolâtrie avec le culte de l'Éternel. Ceux qui les conduisent ont conscience de ce qu'ils font et le font avec soin. Ils mettent le levain dans la pâte, la pétrissent jusqu'à ce qu'elle ait levé. C'est une image semblable à celle de Matthieu 13, verset 33, où le Seigneur caractérise le mal doctrinal introduit dans le christianisme. Ensuite, il faut cuire à point ce pain levé pour qu'il devienne une nourriture acceptable. Ceux qui s'appliquent à cette tâche évitent soigneusement le four surchauffé. Ils pensent échapper au jugement en gardant encore la forme de la piété. Comme le boulanger, ils cessent d'attiser le feu pour que leur pain sorte du four et trouve de nombreux consommateurs. Mais la corruption religieuse engendre la corruption morale, conduit à se moquer des choses sacrées et aboutit à la violence. Au jour de notre roi, les princes se sont rendus malades par l'ardeur du vin. Il a tendu sa main aux moqueurs, car ils ont appliqué leur cœur comme un four à leurs embûches. Toute la nuit, leur boulanger dort. Le matin, il brûle comme un feu de flamme. Versets 5 et 6. Ici, le four est l'image de leur propre cœur. Leur boulanger, leur conscience, a dormi toute la nuit. Au matin, quand ils touchent au but de leurs désirs et de leurs convoitises, le feu, dont les flammes ont grandi pendant leur sommeil, les dévore sans qu'ils puissent échapper. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois sont tombés. Nul d'entre eux ne m'invoque. Verset 7. Ici, ce sont eux-mêmes qui, comme un four, dévorent leurs juges et leurs rois. Cela est arrivé littéralement à Éphraïm et marque la date de cette prophétie contre les rois qui, depuis Zacharie, le dernier de la race de Jéhu, se sont succédés jusqu'au roi Osée sur le trône d'Israël. Nous lisons les détails de cette période en 2 Rois 15, versets 10, 14, 25, 30 et 2 Rois 17, verset 1. Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qu'on n'a pas retourné. Des étrangers ont consumé sa force et il ne le sait pas. Versets 8 et 9. Ici, l'image de la pâte levée continue à hanter le prophète. Éphraïm aurait dû être un gâteau sans levain pour l'Éternel. Mêlé au levain des nations, il s'est allié à l'Égypte et à la Syrie. Mais ces nations sont devenues le four qui a consumé Éphraïm, ce gâteau qui n'a pas été retourné, qui ne s'est pas repenti, dont la face n'a pas changé vis-à-vis de Dieu. Aussi, toute sa force a disparu, a été consumée, et il ne le sait pas. Sérieuse parole. Comme Éphraïm, la chrétienté d'aujourd'hui, mélangé avec le levain du monde qui a fait lever toute la pâte, le sait-elle davantage? Est-elle retournée vers Dieu? Elle pense améliorer le monde, proclame que les bonnes compagnies amélioreront les mauvaises mœurs, et ne sait pas que c'est le monde qui la dévore. Que l'on se vante d'être protestant ou catholique, d'appartenir à une des innombrables sectes de la chrétienté, cette pensée dénote l'ignorance absolue de la faiblesse dans laquelle nous plonge l'alliance avec le monde. « Il ne le sait pas, » dit le prophète. « Des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui, et il ne le sait pas. » Verset 9. Le déclin est arrivé. Les cheveux gris parsemés sur Éphraïm le sont aussi sur la chrétienté de nos jours. Sa vieillesse penche déjà vers le sépulcre, et elle ne le sait pas. Cette ignorance de leur propre état devrait convaincre la conscience de ceux auxquels Dieu s'est révélé. Sommes-nous pareils aux prophètes dont cette ignorance accablait le cœur? Et ce qui est pire encore, c'est qu'elle est mélangée d'orgueil. L'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui, et il ne se retourne pas vers l'Éternel, leur Dieu, et il ne le recherche pas malgré tout cela. Verset 10. On pense si peu à Dieu, qu'on garde une haute idée de sa religion, quand déjà le feu du jugement est préparé. Si le cœur se tourne vers Dieu, il abandonne bien vite son orgueil religieux pour s'approcher de lui, humble et repentant, seule attitude convenable à celui qui est convaincu de péché. Mais l'orgueil va de pair avec l'inintelligence. Éphraïm est devenu comme une colombe niaise, sans intelligence. Ils appellent l'Égypte, ils vont vers la Syrie. Les rois d'Éphraïm s'imaginaient être d'habiles politiques en s'appuyant alternativement sur l'une et l'autre de ces nations ennemies. Le filet est tombé sur eux. Cela s'est réalisé littéralement sous Osée, dernier roi d'Israël, et sous ses prédécesseurs, Deux Rois 17 verset 4, 15 verset 19 et 20. On voit, au verset 13 à 16, quels avaient été les soins de Dieu envers Israël et son but à leur égard. Et moi, je voulais les racheter. Telle est toujours en tout temps sa première pensée envers l'homme, devenu par le péché esclave de Satan. Puis, à cause de leur méchanceté, il avait été obligé de les châtier. Ensuite, ralentissant le cours de ses jugements, il avait fortifié leurs bras, et eux s'étaient servis de sa faveur pour méditer du mal contre lui. Verset 15. Voici, en quelques mots, l'énumération de ce que Dieu avait rencontré chez ce peuple obstiné. Il s'était enfui loin de lui, s'était rebellé, avait proféré des mensonges contre lui. Ils hurlaient de douleur sur leur lit et ne songeaient pas à crier à Dieu et à l'implorer. Leurs intérêts matériels les réunissaient, caractère de toute association humaine, mais ils ne sentaient nullement le besoin de se rapprocher de lui. Ils se sont retirés de moi. Au lieu de retourner au Très-Haut, ils se retournaient comme un arc trompeur pour combattre contre lui. Dieu avait beau sonder leur cœur pour y chercher ou y produire par sa grâce quelques fruits, ils se heurtaient de toutes parts à l'indifférence, au mensonge, à la rébellion, à la guerre ouverte. Aussi, au verset 16, leur ruine et celle de leur prince insolent étaient inévitables. Ils s'étaient tournés vers l'Égypte et devenaient pour elle un objet de risée. Ceux qui ont autrefois connu Dieu et marché, longtemps peut-être, dans son chemin et sous sa loi, rencontrent toujours le mépris du monde quand, devenus infidèles à leur croyance première, ils ont cherché son amitié. Le monde, au lieu de les accueillir avec faveur, se moque d'eux, selon la mesure où leur témoignage avait été plus remarquable auparavant. Ils ont abandonné Dieu et son peuple, comme le fit Éphraïm, mais sans trouver l'estime du monde qui les tourne en dérision. Un arc qui trompe est jeté au rebut. Le monde n'en veut pas. Et Dieu, peut-il en vouloir ?